Table ovale sans ellipse, table ovale sans ellipse avec ce soir par ordre alphabétique de formation Jean-Marie Doré pour le MoDem, pour le Parti communiste Romain Vaste, pour le Parti socialiste Lionel Lacroix et pour l'UMP André Hatt. Et notre premier sujet de la soirée, j'ai indiqué dans mon invitation, commémore-t-on trop, parce que phonétiquement ça me plaisait bien, commémore-t-on trop. Mais surtout, il s'est posé des questions et je vois trois champs aux commémorations dans lesquels les politiques ont à voir. Enfin, il y a au moins deux champs dans lesquels ils ont à voir. Ça a commencé, me semble-t-il, avec la loi Guesso en 90, qui était donc le Monsieur Guesso qui est au Parti communiste, et cette loi donc punissait les négationnistes, tendait à nier les crimes contre l'humanité qui s'étaient produits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ça n'a pratiquement pas arrêté jusqu'à 2005. On a invoqué les bienfaits de la colonisation, les méfaits de la colonisation. Enfin, on en a eu comme ça plusieurs. Et puis finalement, à partir de 2005, on a vu les historiens et les journalistes demander qu'on arrête un petit peu, qu'on les laisse faire leur métier, leur travail, et surtout qu'on respecte la liberté d'expression, pour faire court, parce qu'il y avait quand même eu, je les énumère pas, mais enfin, il y avait une demi-douzaine de lois. La reconnaissance du génocide arménien, enfin bon, l'Assemblée nationale écrivait l'histoire, faisait même des injonctions aux professeurs de mettre dans leur programme. Et donc, à partir de 2005, les historiens et les journalistes ont protesté, au plus haut niveau d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des académiciens, il y a des gens tout à fait éminents. Donc ça, je dirais que c'est le premier champ. Le deuxième champ, ben, sont les commémorations, où on a décidé de consacrer une journée à l'esclavage, une journée, ça y était déjà, aux victoires. Et je dirais, il y a un troisième champ, finalement, mais qui, là, ne regarde pas le politique, et là, je serais presque tenté de dire hélas, c'est qu'en plus, on y ajoute les grands-mères, les amoureux, et je parle pas... des patrons de corporations. Donc ça finit, on finirait par être très occupé quand même si on respectait tout ça. Alors déjà sur les lois historiques, puisque ce sont les communistes qui ont commencé, si je puis dire, avec une que personne ne conteste par ailleurs. Hein, donc, mais j'interroge en premier Monsieur Vaste. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces lois historiques? Est-ce qu'effectivement il faut arrêter les frais? Il y a une commission récente qui a dit bon, vous arrêtez, on va maintenir celle qui y était, mais vous arrêtez s'il vous plaît d'en rajouter. Alors qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Oui, je crois qu'il faut manier l'histoire avec précaution quand même. Et que autant des faits qui font consensus comme l'esclavage, je prends des commémorations diverses volontairement, le 1er mai, la fête des travailleurs, etc., ça n'est remis en cause par personne. Le négationnisme non plus, à ma connaissance. Mais je crois qu'il faut pas instrumentaliser ce genre de choses et laisser le recul aux historiens et à l'histoire pour dégager ce qui fait consensus au niveau de la population et de la nation. C'est ce qu'on peut dire sur ce premier aspect.
L'UMP, qui commémore également allègrement, je dirais.
Surtout la frange gaulliste de l'UMP, ce qui est mon cas. Eh bien, moi, je crois que c'est Winston Churchill qui disait « Si vous oubliez votre histoire, il vous manquera toujours quelque chose. » Et effectivement, les commémorations servent également à se rappeler le passé et l'histoire. Mais transmettre la mémoire uniquement par les commémorations, à mon sens, ne suffit pas. Parce que la mémoire, elle doit se transmettre d'abord par les livres d'histoire, justement.
Et alors, est-ce que le politique doit les écrire, les livres d'histoire ?
Ah, le politique n'a pas à les écrire, mais il peut peut-être un peu forcer la main pour que ce qui est écrit dans le livre d'histoire, eh bien, les gens s'en souviennent un peu plus.
Alors, comment peuvent-ils s'en souvenir un peu plus, d'ailleurs ?
Et justement, par certaines commémorations.
Bien. Monsieur Lacroix.
Oui,
au Parti Socialiste.
Pour revenir au début, pourquoi il y a quelques mois on a reparlé des commémorations, c'est que le président de la République avait demandé à un historien qui s'appelle André Caspi de faire un rapport d'information sur le nombre des commémorations en France. Et André Caspi, historien, concluait que il y avait trop de commémorations et qu'il fallait peut-être en supprimer le nombre. Donc c'est parti de là le débat. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce que pense M. Haddad avec sa fibre gaulliste de ce rapport d'information. Par la suite, certains parlementaires ont demandé que le Parlement soit associé, puisque ce rapport était strictement destiné au cabinet du président de la République. Ce que je crois, c'est que effectivement, les commémorations, ça ne suffit pas à rappeler l'histoire de notre pays. Il faut aussi travailler effectivement dans le domaine scolaire et c'est vrai qu'il y a un gros devoir de pédagogie auprès des jeunes et des moins jeunes pour transmettre ces dates-là. Mais il faut être vigilant sur ce rapport d'information, l'utilisation qui pourra être faite. C'est-à-dire que dans ce rapport, on dit que on fait trop de commémorations sur la Seconde Guerre mondiale. Je crois que le débat, il est pas là. Et effectivement, il faut travailler sur d'autres formes de pédagogie. Moi, j'assiste souvent aux commémorations sur Villefranche. Et effectivement, par exemple, au 11 novembre dernier, il y avait une nouvelle forme de commémoration. On incite plus les chorales de jeunes enfants, quelque chose de plus plus attrayant peut-être pour essayer de fixer, de ramener l'intérêt sur ces dates historiques. Et il faut aussi éclairer en quoi ces dates sont importantes. Et la proposition qui était faite par cette historien-là de supprimer des journées comme la fin de l'esclavage, qui est le 10 mai, c'est quand même problématique. Il y avait aussi Jean-Pierre Jouyet qui souhaitait créer une journée de l'Europe. C'est très bien. On est au Parti Socialiste, on est européen. Sauf que...
ça existe déjà, d'ailleurs.
Ça existe déjà, mais après, on peut parler aussi des jours fériés ou pas. Mais on ne peut pas supprimer le 8 mai pour créer une date le 9 mai. Voilà, donc sur ça, on est d'accord. Donc il faut vraiment faire ce devoir de pédagogie et ne pas oublier certaines dates, parce qu'on l'avait fait sur des dates comme la guerre de 70 ou la commune, qui sont aussi, qui font partie de notre patrimoine commun.
Et alors, madame, monsieur Doré.
Oui, Dor, pardon. Dor. C'est vrai que trop de commémorations peut... Il y en a une douzaine qui sont célébrées, ça fait beaucoup. Peut-être réduire un peu, mais il faudrait qu'au niveau de l'école, apprendre aux jeunes, quand on parlait d'abolition de l'esclavage, ou je sais pas, le 16 juillet, il y a l'hommage aux Justes de France, qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants ne le savent plus. Donc il faudrait apprendre à l'école ce que sont les commémorations. Et puis après, les grandes dates... quand on fait venir les enfants et qu'ils écoutent les discours, là, on voit qu'ils sont un peu concernés. Sinon, autrement, ils ne le sont pas du tout.
Oui, ça là est un peu, pas ma deuxième question, mais enfin, parce que vous avez un peu zappé l'action sur les lois historiques qui ont été votées, qui devraient cesser de l'être, et vous êtes passé, c'était la question principale, hein, sur les commémorations. Mais je dois dire que, alors en même temps, je rejoins complètement votre propos, mais il va falloir l'éclairer un petit peu plus, parce que, je vous demande pardon, parce que je me souviens d'avoir entendu un micro-trottoir le jour du 14 juillet, sur une radio nationale, et on interrogeait les gens pour savoir ce qui se passait le 14 juillet. Et sur 5 personnes, 3 ont considéré que c'était probablement la fin de la guerre. Donc effectivement, il y a peut-être du travail à faire, quoi. Alors là-dessus, comment vous envisagez c'était des adultes, hein, c'était des gens tout à fait adultes, ouais. C'était un peu surprenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est la carence, si je puis dire?
Oui, vous avez raison. Quand M. Lacroix parlait des commémorations du 11 novembre à Villefranche, moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il manquait deux générations à ces commémorations. Il y avait les très anciens et il y avait les très jeunes qui étaient là pour la chorale. Et entre, eh bien, il n'y avait personne, pratiquement personne, ce qui est complètement anormal. Alors les gens, c'est la commémoration, oui, c'est surtout le jour férié qui les intéresse, je pense. Ce qui est complètement anormal, quoi. Moi, chez moi, pour le 8 mai, En général, il y a ce qu'on appelle les conscrits, ceux qui ont 20 ans, qui, ce jour-là, vont déposer une gerbe au monument aux morts. Et alors, la veille, il y avait un apéro chez moi, bon, très bien, tout se passait bien. Puis je leur ai dit, au fait, demain, là, vous savez pourquoi vous allez là, au monument aux morts ? Alors, certains m'ont répondu, ouais, on y va parce qu'il y a les pompiers. Ah bon ? Alors, effectivement, les pompiers sont au garde à vous, il y a la fanfare, très bien. Mais voilà la réponse qui m'a été faite, par quelques-uns.
Alors, où est l'erreur ?
Ah ben, l'erreur, c'est que ces jeunes, certainement que leurs parents n'ont pas fait le travail, déjà. C'est-à-dire de leur enseigner cette mémoire. Et certainement qu'ils l'ont appris à l'école, mais ils ne l'ont pas retenu, comme d'autres choses, aussi.
Monsieur Vast, je vous vois particulièrement triste.
Oui, bah oui, c'est triste, cette affaire. Mais je crois que le but de la commémoration, c'est justement de réactiver un savoir scolaire peut-être un peu oublié, ou bon. Mais c'est peut-être l'occasion quand même, à travers les différents médias ou d'autres types d'activités, d'explorer la période en question. On parle du 11 novembre. Le respect dû aux millions de morts, c'est tout à fait évident. Mais c'est peut-être aussi l'occasion d'avoir des discussions d'historiens pluralistes sur les causes. C'est pas le tout d'honorer les morts. Mais le plus intéressant, c'est de voir pourquoi cette boucherie a eu lieu, par exemple le 11 novembre, mais enfin c'est vrai de n'importe quelle autre commémoration, et éventuellement de renseigner un peu l'histoire et de faire réfléchir les gens, parce qu'il faut pas recommencer tout le temps les mêmes erreurs. Les commémorations sont très importantes, parce qu'un peuple sans histoire n'a pas d'avenir. Mais encore faut-il développer l'histoire en question, et le faire de façon pluraliste pour que l'équipe temporairement au pouvoir ne confisque pas la chose.
Et alors, ça regarde les parents, ça regarde l'éducation, ouais, ça regarde les médias, et comment le politique peut-il ramener tous ces facteurs, tous ces agents, à être utile dans ce domaine-là, Monsieur Dor?
Oui, il y a déjà des journées qui sont fériées. Donc,
et ça, c'est bien vu, ça.
Ça, c'est bien vu. Mais c'est pour ça que quand on va au monument aux morts, mettons comme le 14 juillet, on voit une émission à la télé sur les Champs-Élysées. Donc là, les gens, ils voient qu'il y a eu quelque chose, ils se posent des questions. Voilà, ça peut avancer comme ça, mais c'est pas évident.
À la télé, le 14 juillet, certainement, mais voilà. Par exemple, le 11 novembre n'est pas retransmis à la télévision, sauf cette année, où c'était le 90e anniversaire. Sinon, c'est complètement zappé par toutes les chaînes de télévision, même public. C'est pas normal. Et par contre, tous les grands magasins sont ouverts ce jour-là.
Voilà. Et puis, le 11 novembre, normalement, ça va être cette date-là, mais dans toutes les petites communes, ça se fait le dimanche. Ouais, certaines communes, ça a été le 9 novembre, et d'autres le 16 novembre. 16 novembre, après la messe, parce qu'il y a un peu plus de monde. Donc on se retrouve 20...
C'est vraiment étrange, dans la mesure où c'est quand même férié.
Oui,
non, mais il a raison.
Mais si on le fait le 11 novembre, on se retrouve avec 3 ou 4 personnes. Hein. Ouais. Dans les petites communes rurales, c'est un peu ça. Hein.
Monsieur Lacroix, le Parti Socialiste a quelques idées là-dessus.
Pour répondre à votre question sur l'histoire, juste une anecdote... le général de Gaulle avait supprimé la date du 8 mai férié.
Non, c'est Giscard qui l'a supprimé.
C'est Giscard qui avait supprimé le 8 mai férié.
Il s'est retrouvé tout seul à l'Arc de Triomphe, ça lui avait beaucoup
déplu. Le 8 mai férié, et c'est François Mitterrand qui l'avait rétabli. Mais
d'ailleurs, les gaullistes, ils en ont beaucoup voulu.
À
Giscard.
À Giscard, oui. Non, pour rejoindre ce que disait Monsieur Dor, on parlait des collectivités locales. Sur le rapport dont je parlais de l'historien Caspi, il était proposé de confier uniquement la gestion de ces commémorations par les collectivités locales. Et je crois qu'on est tous d'accord, on l'a dit tout à l'heure, c'est une mission d'État et l'éducation a un rôle là-dedans. Tous les partenaires, les parents, les médias, aujourd'hui l'audiovisuel public qui peut-être demain aura plus de temps à y consacrer. Donc il faut essayer de à la fois travailler auprès des jeunes, ce qui se fait, et il faut le développer encore, travailler sur l'histoire, travailler aussi sur la reconnaissance des anciens combattants. Donc c'est une globalité, ça se résume pas à un dépôt de gerbes.
Mais qui est, si je me trompe pas, officiellement accompagné du discours du ministre qui secrétaire est lu d'État. Par l'édile.
Le discours du secrétaire d'État est lu à la commémoration. D'accord. Et c'est vrai que c'est un outil.
Ça, je suppose que c'est diffusé par la préfecture. C'est, enfin, c'est, voilà, c'est l'obligation municipale.
Ça, tout à fait.
Il y a une lecture après.
La lecture du manifeste, comme c'est exactement indiqué. Moi, je suis maire de 1995. C'est une répétition chaque année. Les ministres changent, les secrétaires d'État changent, mais quelque chose auprès, vous savez. Vous ajoutez. Alors, nous, chez nous, à côté, il y a le discours du maire. Hein. Voilà.
Je pense qu'on a presque fait le tour sur les commémorations. La petite parenthèse sur les fêtes. Alors on est à mi-chemin. Il y a des fois où bon, un, il y a pas de jour férié. Deux, il y a indication éventuellement nationale. Et puis il y a les fêtes commerciales aussi qui se multiplient. C'est un peu singulier. Enfin, ça occupe l'esprit, je veux dire. Donc, est-ce que c'est, est-ce que là aussi, c'est répréhensible ou pas, monsieur Hatt?
Non, enfin, ça dépend lesquels. Par exemple, la fête des mères ne peut pas être une fête répréhensible. Je crois qu'elle fait plaisir à tout le monde, aux mamans et aux enfants. Après, bon, je ne vois pas à quelle vous faites allusion. Halloween, par exemple, mais ça a chuté pas mal. Ça a duré que quelques années. Bon, pour le reste, si elles existent depuis longtemps, pourquoi pas?
Bon, mais enfin, on multiplie quand même des occasions commerciales. Monsieur Vast?
Oui, oui. Bon. Oui. Vous avez tout dit. Ouais, c'est du commerce.
Alors, on se prend une petite pause quand même, peut-être, pour passer au deuxième sujet. Eh bien donc on reprend table ovale sans ellipse, table ovale sans ellipse qui est un débat politique mensuel à Villefranche-de-Rouergue. Table ovale parce que la table est censée être ovale et puis sans ellipse parce que les invités sont censés ne pas en faire. Avec ce soir pour le MoDem Jean-Marie Door, pour le Parti communiste Romain Vaste, pour le Parti socialiste Alain Lacroix et pour l'UMP André Hatt. Et notre deuxième sujet après les commémorations, je voudrais vous entendre débattre et m'expliquer surtout un petit peu ce qui se passe en matière d'agriculture, puisque avant les Jeux Olympiques, les matières premières montent, le pétrole mais le blé aussi, les agriculteurs vont bientôt pouvoir se passer des subventions européennes et même de toutes les autres, et puis à l'automne, on voit le gouvernement imaginer qu'il va falloir mobiliser plusieurs centaines de millions pour des éleveurs de moutons qui, eux, en réclament carrément une dizaine de millions, c'est-à-dire un milliard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Est-ce que c'est à ce point les variations sur les matières? Est-ce que on avait pêché par optimisme au printemps? Qu'est-ce qui fait ces déséquilibres auxquels en vérité on est habitué depuis longtemps? Mais enfin, on n'avait jamais entendu dire quand même que la prospérité arrivait et qu'enfin les prix du marché allaient rémunérer les agriculteurs. On l'a entendu dire pendant quelques semaines. Alors, est-ce que c'était complètement inepte ou est-ce que on est devant une crise, Monsieur Doré?
Non, je pense qu'on est devant une crise assez grave. Assez grave parce que quand on voit au niveau des moutonniers, c'est vraiment les parents pauvres de l'agriculture. Chaque année, c'est 500... C'est entre 2007 et 2008, c'est 33 producteurs qui ont arrêté en Aveyron.
Ce qui représente un pourcentage de combien?
Ce qui représente 4000 brebis par an.
Et en pourcentage d'exploitants? Enfin, de moutonniers.
Un pourcentage, je sais
mais
pas
c'est
exactement.
C'est un tiers, c'est un dixième.
Non, mais c'est quand même une perte considérable pour le département. Parce que après les ovins, il y a la friche. Hein. Il y a plus d'agriculture derrière les ovins. Parce que souvent, ils travaillent dans des pentes, donc la céréale, c'est impossible. Et il n'y a plus rien. Et après, on retrouve les incendies. C'est grave, hein.
Est-ce qu'au printemps ça allait bien déjà?
Non, au printemps ça n'allait pas bien déjà. Mais à un certain moment, il y a la pression qui monte, et bon, aujourd'hui ils en ont ras-le-bol, quoi. Hein. Et je les comprends très bien.
Hein. Mais enfin, ras-le-bol, alors c'est personne ne veut plus manger de mouton ou manger de fromage de brebis ou c'est quoi la pression?
Il y a une baisse de consommation. Mais la France produit que 40% de la viande consommée en France.
C'est là où le
40%. Et le reste vient du Royaume-Uni, Irlande et Nouvelle-Zélande. Donc c'est pour ça, il manque de la marchandise, mais elle est mal payée aux producteurs. Elle est payée 5 euros au producteur, alors qu'au supermarché, on la retrouve à 20 euros le kilo. Voilà.
Et les Anglais ou les Irlandais ou les Écossais nous la vendent moins cher qu'on l'achète aux producteurs français?
C'est le déficit de production qui a amené la chute des cours, mais ça date de 20 ans, ça, cette affaire. Oui. Parce que déficit de production, donc il faut s'approvisionner ailleurs. Donc les négociants en viande de mouton, etc., s'approvisionnent en Nouvelle-Zélande ou en Irlande ou je ne sais où. Et la Nouvelle-Zélande, elle, produit le mouton pour la laine. Donc, elle expédie des carcasses de viande à un prix tout à fait bas, parce que de toute façon, ce n'est pas ça qui les intéresse. Et alors, à partir de là, ils rentrent des milliers de tonnes de carcasses de ovins à un prix bien inférieur au prix français. Et ça achève de faire chuter le cours français, et moins on produit en France, plus on importe, et plus le prix baisse.
Il faut quand même la transporter, là. C'est aux antipodes, quoi. Ça ne peut pas être plus loin, en plus.
Elle part pour rien.
Monsieur Vast.
Il y a eu quelques années, mise au point d'un système réfrigéré sous gaz inerte, qui permet de tuer des agneaux en Nouvelle-Zélande en janvier, et de les vendre frais en France en mai. Comme le dit mon...
C'est pas ça qui va faire monter la consommation.
Le monsieur...
pas cette information-là.
Alors, le problème, il est vieux. Hein. Faut pas,
ça
faut
c'est
pas
le début
dire
de la mondialisation.
C'est un vieux problème, le problème des ovins. On est à 44%, 40-44% aujourd'hui, mais ça fait très longtemps que le problème est ainsi. Et la consommation, effectivement, elle est faible. Elle est de 4,2 kg. Hein. Je vais vérifier. 4,2 kg et elle est en baisse. Par an et par habitant.
Ça a démarré.
Ça renvoie au niveau de vie. Ça renvoie au niveau de vie en France aussi. Hein. Qui mange de l'agneau? Bon, 4,2 kg, c'est ridicule, quoi.
Hein. Normalement, ceux qui mangent pas de porc, entre autres.
Certes, mais faut croire que leur niveau de vie est pas terrible non plus, hein.
Monsieur Lacroix.
Oui, alors une solution, c'est de favoriser les circuits courts, donc producteurs-consommateurs.
Ah, bien sûr.
Hein, non, bien ça, sûr. C'est non. Pas possible. Comment voulez-vous...
Pas en totalité, mais il faut être réaliste, je suis d'accord, mais on peut essayer de le développer. Je pense qu'il n'y aura pas une solution unique, il faudra développer plusieurs plans d'aide à l'agriculture actuelle. Et pour donner, on parlait de rapports sur par exemple les aujourd'hui il y avait des agriculteurs qui étaient réunis devant la société Lactalis à Onet-le-Château. Sur le 1 litre de lait, il y a 60% qui va à la grande distribution, à celui qui revend, et que 40% au producteur. Donc là, il y a aussi des équilibres. Il y a encore un déséquilibre économique, on en parlait le mois dernier, entre le producteur et celui qui transporte et qui revend. Donc il faut travailler sur ça et puis travailler aussi sur les aides spécifiques, sur les retraites agricoles, mais aussi sur le revenu. Donc c'est un plan global qu'il faut aborder. Là, on est à une étape, on est au bilan de la politique agricole commune, puisque l'année prochaine, il faudra décider de grandes orientations et on en reparlera au sein de l'Union européenne. Là, ce qui s'apprête, encore plus développer les outils de régulation. Et je ne sais pas si la disparition des quotas ou des jachères sera la solution. Et la remise en cause des prix garantis, alors que dans la situation grave telle qu'elle est aujourd'hui au sein de l'agriculture européenne et française, il faut quand même, je pense, établir des vrais outils de régulation et définir quelle agriculture on veut.
Et c'est quoi ça, des passe outils par de régulation?
Non, mais ce qui se passe, c'est que vous pouvez mettre la régulation que vous voulez. Ce qui s'est passé en 2007, c'est que la finance mondiale s'est tout d'un coup intéressée à l'agriculture, notamment sur le marché des céréales. Ces financiers qui ne croyaient plus justement au marché financier ont décidé d'investir dans les matières premières. Et ils ont investi d'une façon assez surprenante, c'est-à-dire qu'ils ont acheté des stocks qu'ils ont gardé.
Alors ça,
ils n'ont pas remis sur le marché.
C'est ce qui s'est passé au printemps.
C'est ce qui s'est passé au printemps, mais ça avait commencé en 2007.
J'observe que c'est ce qui se passait déjà au XVIIIe siècle.
Oui, mais ça avait commencé en 2007, dès l'été 2007. Et ça a duré, cette affaire, jusqu'à l'été 2008. Donc les gens ont stocké, enfin avaient acheté, et puis ne vendaient pas. Donc ça fait artificiellement monter le cours de la céréale, qui a plus que doublé, ou triplé même, en un an. Et ensuite, ils se sont déjà engagés de ce marché, qui finalement n'étaient plus porteurs ou ils sont tournés vers autre chose sûrement. Et donc tout à coup, eh bien, le marché a de nouveau été inondé par les céréales de l'ancienne récolte plus la nouvelle. Moi-même personnellement, j'ai vendu à la récolte des céréales à 190 euros tonne et aujourd'hui elles en valent à 130 euros tonne.
C'est moins effondré que le pétrole.
Oui, ça c'est moins effondré que le pétrole. Mais le pétrole, ça a été la même affaire.
Ça a été la même chose.
Voilà,
mais alors, moi je voudrais savoir, parce qu'on nous parle de régulation, je voudrais encore une fois observer que ce type de phénomène, on l'a connu au XVIIIe siècle. Il y a un certain nombre de famines, pas toutes, mais il y a quelques famines peu avant la Révolution qui ont été organisées de cette manière-là, avec des gens qui retenaient des bateaux, qui retenaient des céréales. C'est pas un phénomène nouveau. On n'a rien appris en deux siècles et demi, on n'a rien appris. Et qu'est-ce quand ceux qui évoquent des problèmes de régulation, qu'est-ce qu'ils mettent derrière ce mot-là, M. Lacroix?
C'est une accumulation, l'augmentation du cours des céréales, problème des prix des produits, problème aussi d'emprunt, parce que beaucoup sur les exploitations investissent et font des emprunts. Donc c'est une accumulation qui fait aujourd'hui qu'on arrive à ces problèmes-là. Et sur la régulation, c'est maintenir les aides aux broutards, parler aussi des ovins. Il y a aussi des mesures d'aide à faire, donc le constat on le fait là, mais il faut aussi donner les moyens à l'agriculture qu'on souhaite développer.
Alors j'aurais,
mais là je veux quand même lancer une petite pique à mon collègue Lacroix, parce que quand même la PAC dont nous subissons les conséquences aujourd'hui a été mise en place par les gouvernements de Madame Cresson et de Monsieur Bérégovoy, négociée par Madame Cresson et mise en place par Bérégovoy en 92. Des gouvernements socialistes, et on s'aperçoit de quoi? C'est que 80% des aides vont à 20% des agriculteurs.
Voilà, moi, je remarque surtout...
C'est le drôle de justice sociale.
J'aurais en même temps vous faire réagir, mais je vous interromps
un peu.
Et
quand on a manifesté contre ça, on a retrouvé des chars contre les tracteurs.
Je remarque que quand je demande qu'est-ce qu'on peut faire pour réguler, et alors qu'on nous a dit quelques secondes, quelques minutes auparavant, que les intermédiaires, la grande distribution, etc., tout ce qu'on me dit, c'est faut aider les agriculteurs. C'est peut-être la solution.
Alors, j'attends la réponse de monsieur Hatt, puisque le président de l'Union européenne jusqu'à encore quelques mois, c'est Nicolas Sarkozy. Donc, sur le constat, je suis d'accord, il y a 80% qui va à 20%, sauf que depuis Madame Cresson, il y a eu plusieurs gouvernements successifs et qu'aujourd'hui, on attend de l'Europe, du président de l'Union européenne qui est Nicolas Sarkozy, quelle orientation il souhaite. Il n'est pas le seul, il va falloir qu'il négocie avec les autres États européens. Quelle proposition fait aujourd'hui le président de l'Union européenne ?
On sait bien que la PAC doit être révisable en 2013.
Ça, on le sait tous. Mais après, comment on la révise ?
Donc, justement, le ministre actuel Barnier, oui, qui est un Européen convaincu, lui s'attache justement à avoir une meilleure répartition des aides, premièrement.
Là, on est tous d'accord.
Mais les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils ne demandent pas davantage d'aides. Ils en demandent même moins. Et ils demandent que leurs produits se vendent mieux.
Oui.
Voilà. Parce que moi, qui suis agriculteur, je vends finalement mes veaux pas plus cher qu'il y a 15 ans. Alors j'ai davantage d'aide qu'il y a 15 ans, c'est sûr. Mais je préférerais moins demander à la collectivité, à l'État, à l'Europe, et puis vendre normalement mes produits. Sauf que ça a été quelque chose qui a été organisé pour que le consommateur il paye sa marchandise moins cher dans les grandes surfaces ou ailleurs, quoi.
Apparemment, il ne la paye pas moins cher non plus, en plus.
Et en fait, il ne la paye pas moins cher, parce que, par exemple, là, le prix des céréales a baissé, a été divisé par deux, pratiquement. Est-ce que les pâtes sont moins chères ? Est-ce que le pain est moins cher ? Est-ce que les biscottes sont moins chères ? Mais non. Est-ce que le prix du lait baisse pour l'instant ? Il ne baisse pas. Personne ne l'a vu baisser. C'est complètement anormal.
Monsieur Dor.
Oui, c'est vrai qu'il y a un redéploiement des aides qu'il faudrait effectuer pour les zones d'herbe, notamment, parce que ce soit en ovin ou en bovin, la proportion d'aide est très faible par rapport à des céréaliers, mettons.
Oui, c'est sûr.
Les céréales ont doublé ou triplé l'an dernier, il n'y a pas eu baisse des aides, alors que les agriculteurs du Massif central, mettons, ovin ou bovin, auraient besoin d'un peu plus. Les éleveurs ovins, ils sont pour l'instant à 700 euros par mois. Ils sont en dessous le seuil de pauvreté. Et si on a, je ne sais pas, 10 brebis à l'hectare, on ne peut pas en tenir plus. Ou alors après on fait du hors-sol, mais hors-sol qui coûte cher. Donc mais voilà, c'est une vision globale de l'agriculture sur tout le territoire qu'il faut avoir.
C'est hallucinant quand on vous écoute, parce que on vous dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour réguler ? Alors vous dites, ah ben il faut pas diminuer les aides, il faut même plutôt les augmenter.
Non, c'est pas ce que j'ai dit que j'en voulais moins.
Et puis d'ailleurs...
Au niveau des prix garantis, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Hatt ?
Mais les prix garantis, de toute façon, maintenant on est dans un système où c'est l'offre et la demande. Et les prix garantis, ça existait à l'époque où il n'y avait pas l'euro. Les prix garantis n'existent plus. L'euro a été une bonne chose, par contre. A été une bonne chose parce que, par exemple, pour l'exportation des broutards ou des veaux sur l'Italie, je me rappelle à l'époque où il y avait les montants compensatoires monétaires et la dévaluation sans cesse de la lire. Alors, les Italiens dévaluaient la lire pour s'en sortir économiquement et ça renchérissait le coût du produit français de 15-20% parce qu'ils n'y allaient pas mollo dans leur dévaluation. Et maintenant, ça ne se produit plus. L'euro, en ce sens, c'était une bonne chose. Et je ne suis pas un Européen convaincu. Hein.
Monsieur Vast, vous allez nous dire quelque chose sur la régulation, peut-être, quand même.
Vous parliez du 18e siècle, etc. Mais il y a eu des solutions d'avancée. Historiquement, en France, c'est après la libération, les offices, avec des prix planchers, etc., etc. Mais tous ces systèmes-là sont tout à fait insolubles dans l'ultralibéralisme, hein. Tout à fait insoluble. Et j'ai regardé, quand au bilan de santé de la PAC, les sites des différents syndicats agricoles, sauf un, la FFA, j'ai pas regardé, c'est pas la peine. Mais ils sont, ça va les vexer que je dise ça, mais ils sont relativement sur la même longueur d'onde. Et ils disent que la PAC telle qu'elle se reprojette en 2010 et plus, là, c'est tout pour le marché, comme d'habitude, et qu'on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Si on prend un exemple, on est passé un peu vite sur les ovins quand même, si vous permettez de reprendre un petit peu la situation des ovins sur le département. La première chose, c'est que c'est pas récent. Le problème des ovins n'est pas récent. Il est très ancien. La deuxième chose, c'est que les ovins, en France et dans le monde, c'est une production qui est liée à la pauvreté, on va le dire, c'est-à-dire sur des zones qui sont inaptes à des cultures intensives ou à une production intensive de viande.
donc des zones fragiles. La troisième chose, c'est que si on prend l'exemple de l'Aveyron, puisque on y est, on y vit, la production ovine est le plus souvent faite en plus d'autres choses. Hein, les cheptels sont de 220-250 brebis en moyenne, hein, sur le département. Parce que c'est une production très connue, parce que très très collective, hein, entre groupements de producteurs, etc. Et c'est un boulot difficile. Ceux qui ferment, comme le disait Monsieur Dor tout à l'heure, ceux qui ferment, ça va être remplacé par rien du tout, parce que c'est un métier très technique. Il faut être paysan, il faut être technicien, il faut être zootechnicien et un peu véto et gestionnaire pour être paysan. Eh bien ça, c'est un savoir-faire. S'il disparaît, ça revient pas. Ça, c'est clair. La baisse du revenu l'an dernier était de 28% au niveau des ovins-viandes du département. Et en moyenne, mais alors les moyennes, ça cache quand même des choses, c'est 12 000 euros par an à une personne et demie. C'est-à-dire, comme revenu, ils ont entre le RMI et le SMIG. Ça peut continuer longtemps, ça. Plus des pépins comme la fièvre catarrhale, les montagnes russes des matières premières, etc. Ça peut pas continuer, ça, c'est clair. Donc, il faut bien... La politique, elle devrait commencer à passer, mais enfin à notre avis, hein, par le respect d'une certaine souveraineté alimentaire. Et qu'on fasse pas faire le tour du monde, ou la moitié du tour du monde, du moins, à des carcasses d'agneaux, etc. Il y a eu une enquête il y a 15 jours en Angleterre, où ils concluaient, les journalistes anglais concluaient, que dans l'assiette, pourtant, dans l'assiette des Anglais au repas de midi, il y avait 3000 kilomètres. 3000 kilomètres. Leur saloperie, là, avait fait 3000 kilomètres. Mais ça peut pas durer, ça. C'est pas possible que ça dure. Il faut relocaliser la production près des bassins de consommation. Et donc, d'une certaine façon, il va falloir, pas énormément de protectionnisme, mais un peu, si on veut garantir des prix pour que la production... Parce que c'est des prix qu'il faut. C'est des prix. Les gens ne demandent pas des primes, les paysans ne demandent pas des primes, ils demandent des prix rémunérateurs pour un travail bien fait et technique et important pour la société. Donc il y a quand même beaucoup de choses à revoir.
Et si l'Europe ferme ses frontières, est-ce que ça suffit pour qu'il y ait une rémunération correcte de cette production ?
Si.
Si l'Europe ferme ses frontières, l'Europe.
Ah mais de toute façon, la situation est abîmée, vous l'avez bien vu. On ne produit que 44% de la production.
Oui,
donc, mais ça n'empêche pas de passer des accords de coopération avec le monde entier.
Mais de toute façon, l'Europe est actuellement déficitaire en produits agricoles.
Mais bien sûr.
Depuis quelques années.
Mais bien sûr.
Donc elle a aucun intérêt à fermer ses frontières puisque maintenant elle importe.
Alors, ce qu'il faut savoir, vous avez c'est posé que, problème, mais vous n'avez pas apporté même un embryon de solution.
Concernant les céréales, il y a environ 50 ans, il fallait pour nourrir la planète 500 millions de tonnes de céréales. Aujourd'hui, en 2010, il faudra 3000 millions de tonnes pour nourrir la population mondiale. Et dans le même temps, on est passé de 44 arts de terre par humain à 15 arts.
Alors, et c'est pas fini.
Et c'est pas fini. Alors vous voyez, alors quand on nous sort des sornettes en nous expliquant que c'est l'agriculture biologique qui va nous sortir de là, eh bien là, c'est vraiment pas possible. Ça, c'est.
Oui, mais en fait, il y a quelques signes de qualité comme l'agriculture biologique qui sortent les agriculteurs de.
Chez moi, on produit de la qualité et on fait pas d'agriculture biologique. C'est pas une obligation.
Moi, je produis en agriculture biologique. Je produis du lait et il nous manque du lait. On pourrait vendre le double lait. Je pense qu'à Canagno, il n'y a pas de filière qui soit correcte encore.
Ce n'est pas ceux qui la pratiquent normalement. Il ne faut pas non plus la caricaturer, comme on le voit parfois. Hein, où on nous fait croire qu'en ayant trois cochons noirs au fond d'un travers et quatre chèvres, on va nourrir la planète.
Ah oui, mais moi je suis agriculteur biologique, bon, j'ai 500 brebis laitières.
Je travaille c'est pas avec, une caricature d'agriculture biologique, là.
Voilà.
Dans ce cas-là.
Voilà.
Enfin, là, c'est une solution.
Ça serait bien qu'il y ait déjà qui.
Ce que vous dites, c'est que c'est une bonne solution marketing pour les agriculteurs.
Non, parce que parfois, on voit à la télévision, on nous explique l'agriculture biologique, on nous fait voir des gens, qui, visiblement, ne sont pas tellement intégrés dans le milieu agricole, hein, et, on les voit qui élèvent quatre chèvres, etc. Non, mais c'est vraiment, c'est risible, oui.
D'accord, mais il y a aucun chevreau sur le marché, là.
<Peut-être>
Pour ça, avec quatre chèvres, ils les mangent.
Non, mais ça serait bien. En plus, je profite de l'antenne. Jeudi soir, il y a un film qui passe au Royal à Rodez. Nos enfants nous accuseront, avec un débat par la suite où on parle de l'agriculture biologique et de certaines maladies qui
le problème qu'on a pour l'instant, des pesticides, quoi. Le problème des pesticides, et qui a beaucoup d'effets aujourd'hui. Et beaucoup de journaux régionaux à le titre, c'est sur la fertilité des hommes, et on le sait depuis longtemps, mais ce problème des pesticides, il est quand même posé. Alors qu'on fasse du bio ou qu'on fasse du labellisé ou de sous signe officiel de qualité.
Il ne faut pas trop exagérer dans certains domaines, faire croire que.
C'est pas faire croire.
Ce sera la panacée et c'est l'avenir.
Il faut de tout, mais il faut travailler sur la réduction des pesticides qui sont très dangereux et en plus qui sont.
On a expliqué pendant longtemps que le pesticide. Enfin, je ne vais pas citer la marque, hein, comme ça on avait des conséquences graves sur les abeilles. Bon, ça a été un combat judiciaire pendant plusieurs années. Mm. Et finalement, on s'est aperçu que ce n'était pas ça, dernièrement, là.
C'est pas clair, hein, je crois pas.
Moi, je ne l'utilise pas, mais ça me concerne.
Les questions à chaque fois des études, c'est qui c'est qui commande l'étude scientifique.
Mais
parce qu'il y a des gros intérêts sur les pesticides. Si on veut en partir plus large, en Amérique du Sud, on sait très bien qu'il y a des pesticides qu'on fait payer à des pauvres agriculteurs en Amérique du Sud à des prix exorbitants. Mm. Et au final, en plus, ils aggravent leur santé. Ça existe aujourd'hui encore en France dans l'agriculture. Il faut pas occulter ce sujet-là. Hein.
Non, mais les pesticides, c'est un problème très grave. Le problème, c'est que il y a eu possibilité de mettre sur le marché des produits qui n'ont jamais été testés dans le temps d'une façon valable. Hein. Donc, encore une fois, on tombe sur un problème commercial non régulé, on va dire.
Et qu'on est incapable d'éliminer, surtout.
Et que, oui, et là, la situation, elle est grave, hein. Au niveau santé publique, c'est clair qu'on va avoir de grosses surprises.
Moi, je trouve qu'on n'a pas suffisamment parlé de la mainmise de la grande distribution sur l'agriculture française.
Bien sûr.
Oui. Parce que le gros problème, il est là. Il est là.
Je vous écoute.
Et on est
pendu à vos lèvres, là.
D'autant plus qu'autrefois, les modes de consommation n'étaient pas les mêmes. Les gens allaient chez le boucher pour acheter de la viande. Il allait chez le primeur acheter des haricots. Il allait ailleurs. Et là, maintenant, tout se passe à la grande distribution. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des commémorations. Les gens, les jours de commémoration, sur rue, encore une fois, dans les grandes surfaces. Bien. Et alors, bien sûr, la grande surface, elle a une capacité d'achat en volume énorme. Et donc, par conséquent, elle sans cesse pressionne sur les producteurs. Et M. Doros est d'accord avec moi, je pense.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais.
Mais là, il n'y a aucun moyen de légiférer, d'organiser, de contrebalancer.
Légiférer, ça a été légiféré dernièrement dans le mauvais sens. Et il faut le reconnaître. Concernant la grande distribution.
C'est M. Andréat, le
Parti Socialiste, c'est qu'on en attend ça. Non, mais c'est vrai, il faut travailler sur les marges arrière. Et là où je suis d'accord avec vous, et je l'ai dit tout à l'heure sur le prix du lait, c'est que, en fait, sur un litre de lait, 40% revient au producteur, sauf qu'en plus, on lui fait payer tout ce qui est publicité, tout ce qui est lié à la promotion du produit, on le fait payer au producteur et non pas à la grande distribution. Et c'est là où le politique peut.
Puis on ne sait pas les agrandissements des surfaces elles-mêmes.
Voilà.
Mmh. Oui, et puis, ce qu'il faudrait voir, nous, on le regarde au mouvement démocrate, c'est un peu l'agriculture dans le monde. Il y a certains pays où les gens ils ont du mal à manger, mais ils produisent pour nous vendre à nous. Mmh. Alors qu'il vaudrait mieux qu'ils fassent de l'agriculture vivrière pour qu'ils mangent à leur faim.
Mais ils doivent ça à la FMI aussi. Hein.
Ils les ont incités
à faire ça.
Ils envoient la marchandise en France ou en Europe parce qu'on peut payer, on leur envoie des deniers. Voilà. Mais ils ont du mal à se nourrir.
Tout à fait. Il y a 2,5 milliards d'humains sur la planète qui dépendent de la vie et dépendent directement de l'activité agricole. Et l'émission derrière, on parlait des milliards d'euros de la finance dans le monde. Il suffit de 22 milliards d'euros pour de mettre sur la table et dire on arrête, il y a trop de faim dans le monde. Il y a plus de 900 millions de gens qui meurent de malnutrition. Donc les débats d'agriculture, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont au cœur de la société qu'on veut. Ils sont liés à la finance et aussi à la santé des hommes et des femmes.
D'ailleurs, mercredi soir, il y a Jean agriculteurs qui organise à l'IUT de Rodez un débat sur les agriculteurs dans le monde.
Voilà. Non, on l'avait pas prévu, mais c'est tout à fait dans l'actualité. Ça sera moins local aussi que l'agriculture, puisqu'on est très concerné, notamment par l'élevage ovin. Mais il y a quelque chose qui est dans l'actualité en ce moment, et on est dans une radio locale, associative, c'est la réforme du financement, je dirais d'une certaine manière, de l'audiovisuel. Et là, on voit les suggestions qui sont de supprimer la publicité dans l'audiovisuel public. Pas une mauvaise chose, a priori, mais c'est comme souvent dans la proposition même, on voit la contradiction, enfin, c'est ce qui me semble, puisque on espère que la clientèle que va abandonner le public va aller vers le privé, il est bien évident qu'elle ne va pas y aller tout entière, et on ne va pas non plus demander au privé de restituer tout le supplément de clientèle qu'il va avoir. Et donc là, on nous dit, si j'ai bien compris, Monsieur Hatt, on nous dit, ben, l'État va compenser. Et ne vous inquiétez pas, l'audiovisuel public sera financé comme il l'était auparavant. Alors, on a quelques doutes parce qu'on nous a déjà fait le coup à plusieurs reprises. Il y a des fois où on nous dit les collectivités locales vont s'occuper des choses au plus près. Ben oui, elles vont s'occuper au plus près, donc ça va coûter plus cher. Et donc, si on leur redonne exactement ce que dépensait l'État pour le faire, ben ça fait pas le compte. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Moi, je crois que je suis comme tous les Français. Je souhaite la disparition de la publicité à la télévision, mais pas uniquement sur le secteur public, partout, ce qui est impossible, bien sûr. Alors, concernant les dernières propositions, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un gaulliste, donc je suis, par définition, un rebelle. Et je suis contre ce que l'on propose actuellement. Pourquoi ? Parce que on va désosser, si je peux dire, puisqu'on était tout à l'heure dans la viande de mouton, le secteur public. On dit qu'on va lui fournir les moyens nécessaires. On sait très bien que ce n'est pas vrai. Or, c'est dans le secteur public, justement, on a les émissions culturelles, les émissions d'histoire, les émissions sportives, qui sont autrement plus intéressantes que la médiocrité des programmes que l'on voit dans le secteur privé. Et je ne vais pas citer certaines chaînes. Donc moi, si vous voulez, concernant cette réforme, je dirais que je suis MP, mais je suis contre.
Le MoDem.
Oui, vaste débat. Vaste débat, parce qu'on ne sait pas où c'est que va nous mener cette réforme. Elle risque de nous mener à une augmentation de la redevance télé. Voilà, donc qui va toucher tout le monde, même les petits revenus. Et puis, il commence à parler aussi de taxer peut-être la télé sur Internet. Voilà, donc on ne sait pas où va nous mener la réforme.
On sait une chose, au Parti Socialiste, ce qu'on dit, c'est supprimer la publicité sur les chaînes publiques, c'est très bien. Le problème, c'est le financement du service public. Il faut qu'il soit plus qu'à l'euro près, parce que le jour où on signe les financements, 3 mois après, déjà il y aura des manques pour le service public.
Faut pas que ça comme pour la PA. Là où il faut pas que
Monsieur Copé et son équipe soient hypocrites, c'est que de taxer la téléphonie mobile ou sur Internet, on sait très bien qui c'est qui va payer au final. C'est les téléspectateurs qui vont au final payer, parce que les opérateurs de téléphonie ou d'internet, je sais pas d'où, vont au final demander à leurs clients de payer en fait indirectement la suppression de la pub. Donc dire on supprime, nous on est contre l'augmentation de la redevance télé, mais nous on va chercher l'argent ailleurs, au final l'argent on va le chercher toujours chez les Français. Donc et le problème, c'est qu'en plus, c'est complètement injuste.
Temps, la pub, elle est répercutée aussi.
Qu'on travaille sur alors une redevance proportionnelle, mais qu'on n'aille pas faire payer à tout le monde, sans distinction de revenus, la suppression de la publicité. Donc, voilà.
Et en plus, ça va avoir des conséquences sur
la redevance proportionnelle aux revenus, c'est intéressant ou...
Moi, je ne sais pas, je ne suis pas penché sur ce problème.
Il ne faut pas que la mise en place coûte plus cher.
Il y a tellement de choses qui devraient être proportionnelles aux revenus. Mais bon, tout ça ne va pas favoriser la production française. Et au contraire, ça va favoriser ces productions américaines, etc. Voilà.
Monsieur Vast.
C'est vrai que les gaullistes et les communistes, pendant la résistance, ont largement collaboré. Je vois que nous sommes...
Collaborer, vous n'êtes pas le mot qui convient.
Je pense qu'on fait dans l'audiovisuel ce qu'on a fait partout ailleurs. Comment casser un service public? On le scinde en morceaux, on privatise ce qui rapporte, et le reste, on le prive tellement de moyens que de toute façon, tout le monde en est écœuré. Ça se fait dans l'école, ça se fait à l'hôpital, ça se fait partout. Ça se fait partout. Et puis ça continue là. Parce que l'idée, c'est vrai qu'elle est séduisante, d'arrêter les publicités. Mais dans les faits, ça va se traduire par une catastrophe. Ils vont se séparer d'une chaîne qui va être confiée à... Bon, et
il y a déjà eu des regroupements de rédaction.
Ça va être une catastrophe. Je suis très... très sceptique sur cette affaire. Enfin, je ne suis pas sceptique du tout, d'ailleurs.
Bien. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de notre soirée. On a même fait un sujet de plus que celui de prévu. Donc, nous nous retrouvons dans un mois avec les représentants locaux des partis politiques nationaux dans les studios de CFM pour Table Ovale sans ellipse.